VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide avec vous. Nous sommes le lundi 23 avril 2018. À la une ce soir, affrontement meurtrier en Centrafrique entre un nouveau groupe armé et les casques bleus de l'ONU près de Gamboula. En République démocratique du Congo, les médecins en grève revendiquent de meilleures conditions salariales. À Madagascar, l'opposition de nouveau dans la rue pour dénoncer la répression meurtrière du rassemblement anti-gouvernemental de samedi. Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Washington pour sa visite d'État de 3 jours. Dans la partie magazine, gros plan sur Bouaké, la deuxième ville ivoirienne est au régime sec depuis 3 semaines.
Franchement, cette affaire d'eau là, c'est agaçant, on souffre, on a cours, mais tu es obligé de te lever à 3 heures, aller chercher l'eau.
Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives un peu plus tard. En République centrafricaine, des affrontements ont opposé un groupe armé récemment créé et des éléments de la force de l'ONU, la MINUSCA. Les casques bleus sont intervenus hier à l'aube pour stopper le mouvement d'éléments armés du groupe Siriri vers la localité de Gamboula. D'après la MINUSCA, 4 personnes ont trouvé la mort. L'un d'entre eux serait le chef de Siriri, d'après une source sécuritaire. Ce groupe armé Siriri a vu le jour fin l'année dernière dans le sud-ouest qui échappait largement jusqu'alors aux violences qui ravagent le pays depuis 2013. En République démocratique du Congo, le gouverneur de la ville de Kinshasa a autorisé aujourd'hui le parti historique d'opposition, UDPS, à tenir un meeting mardi demain, une première depuis septembre 2016. Toute manifestation était interdite en RDC depuis septembre 2016 et des violences, notamment près du siège de l'UDPS, à Kinshasa, qui avait fait des dizaines de morts. Par ailleurs, les médecins sont en grève à partir d'aujourd'hui dans tout le pays à l'appel du syndicat national des médecins. Les blouses blanches reprochent à Kinshasa de n'avoir pas amélioré leurs conditions salariales en dépit des accords paraffés entre les deux parties. Le compte-rendu de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre radio partenaire dans la capitale congolaise.
À l'hôpital général de référence de Kinshasa, médecins et infirmiers sont présents avec leur tenue. Mais le service est strictement limité, que le gouvernement règle très vite cette histoire et paye aux médecins ce qu'il leur a promis. Sinon, nous allons mourir, faute de prise en charge, nous a lancé désespéré un malade. À l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, dans la commune de Njili, dès comme au centre mère et enfant de Barumbu, le personnel soignant est présent, les médecins font la ronde pour visiter les malades et les urgences sont assurées. Interrogé, un médecin nous a affirmé que le mouvement peu suivi ce lundi, se radicalisera progressivement. Pour rappel, le syndicat national des médecins a décidé d'un mouvement de grève dans tous les hôpitaux publics de la RDC. Il reproche au gouvernement de n'avoir pas amélioré les conditions salariales des médecins. Le CINAMED promet de durcir le mouvement dans une semaine si le gouvernement n'honore toujours pas ses engagements. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'opposition malgache continue la mobilisation contre une nouvelle loi électorale et la mort de 2 manifestants samedi. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans la capitale Antananarive. Abdourahmane Dia pour les détails.
L'objectif de la manifestation de ce lundi était de dénoncer la répression meurtrière du rassemblement de samedi et dénoncer la nouvelle loi électorale. Selon l'opposition, cette loi vise à écarter les principaux opposants, comme l'ancien président Marc Ravalomanane, à 7 mois des élections. Comme hier, militaires et policiers en armes ont interdit, dès les premières heures de la matinée, les accès à la place du 13 mai avant de se retirer. C'est pour éviter des affrontements violents qui pourraient entraîner des grands dommages entre malgaches que nous avons choisi de quitter la place, a expliqué le ministre de la Défense. De retour d'un bref séjour hors du pays, le chef de l'État R. Rajonam Piam a dénoncé hier soir un coup d'État. Lors d'une allocution à la télévision et sur les réseaux sociaux, il a appelé tous les malgaches au calme. Il a aussi mis en garde ceux qu'il appelle les fauteurs de troubles et ceux qui incitent à la haine. L'un des principaux chefs de l'opposition, l'ancien président André Rajoel, devrait s'exprimer sur la situation dans la soirée ce lundi.
Le secrétaire américain adjoint par intérim aux affaires africaines, Donald Yamamoto, effectue une visite rare en Érythrée du 22 au 24 avril. Il ira ensuite à Djibouti et en Éthiopie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Donald Yamamoto, secrétaire adjoint intérimaire aux affaires africaines, doit rencontrer les responsables érythréens. Au menu, des consultations avec les autorités d'Asmara, une rencontre avec la communauté diplomatique et un tour à l'ambassade américaine. Cette visite de M. Yamamoto intervient à un moment où l'Érythrée cherche un soutien pour lever les sanctions onusiennes, notamment l'embargo sur les armes décrété en 2009. L'ONU reproche à l'Érythrée son soutien présumé aux groupes armés en Somalie voisine. Après l'étape érythréenne, Donald Yamamoto se rendra à Djibouti, où il va diriger le forum États-Unis-Djibouti du 24 au 25 avril. Ce dialogue annuel porte sur les questions politiques, économiques, l'aide et la coopération de sécurité. La délégation américaine va terminer sa tournée en Éthiopie le 26 avril. Durant cette dernière étape, les discussions porteront sur des préoccupations et des sujets d'intérêt commun, d'après le communiqué du département d'État américain.
Une jeune sud-africaine présentée par les médias locaux comme la future septième épouse de l'ex-président Jacob Zuma, de 52 ans, son aînée, a été contrainte de démissionner de son poste d'une ONG qui fait la promotion des femmes. She Conquers, elle se bat, a estimé que la relation entre son employé Nonkani Isokono, chargé de communication, et Jacob Zuma était contraire aux principes de l'ONG qui défend l'émancipation économique des jeunes femmes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Canada, une camionnette a renversé ce lundi une dizaine de piétons à Toronto. Au moins 8 à 10 personnes ont été blessées. Le conducteur du véhicule a été arrêté. La police ne donne pas de précision sur son âge ni sur ses motivations éventuelles. D'après des médias locaux, au moins 4 personnes n'ont plus de signes vitaux. Le chef de l'État français Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Washington pour une visite d'État de 3 jours que la France et les États-Unis veulent riche en symboles et en démonstrations d'amitié en dépit des divergences persistantes sur l'Iran, le commerce et le climat entre les deux pays alliés. John Lydon.
Cette visite d'État commence ce soir par un dîner. En préambule, le président français a énuméré dimanche sur Fox News ses arguments pour convaincre le président américain. Le sujet le plus brûlant concerne l'accord nucléaire iranien signé en 2015. Donald Trump a menacé de se retirer. Autre différent, la stratégie à Téhéran en Syrie après la victoire contre le groupe État islamique. Mais le président Trump veut retirer ses troupes de la Syrie. Pendant sa visite, M. Macron se fera aussi l'avocat de l'Europe sur l'application des taxes douanières américaines sur l'acier et l'aluminium en suspens jusqu'au 1er mai. Sur tous ces sujets, Emmanuel Macron espère que ses bonnes relations avec Donald Trump permettront au moins d'infléchir les positions du chef de l'exécutif américain. Les discussions diplomatiques commencent demain avec des entretiens à la Maison-Blanche, puis un dîner d'État. Mercredi, M. Macron s'exprimera devant les membres du Congrès avant de rencontrer des étudiants de l'Université George Washington.
D'ailleurs, l'ONU a réaffirmé ce lundi son soutien à cet accord sur le nucléaire iranien. Lors d'une conférence à Genève consacrée à la non-prolifération, de nombreux participants ont appelé les signataires du texte à garantir sa mise en œuvre alors que le président américain menace de se retirer. La Commission des affaires étrangères du Sénat doit se prononcer ce lundi sur la candidature de Mike Pompeo au poste de secrétaire d'État. Il a été choisi par le président Trump. Tous les membres démocrates de cette commission, plus le sénateur républicain Rand Paul, ont fait savoir l'opposition à la nomination de l'actuel directeur de la CIA pour prendre les rênes de la diplomatie américaine. Le vote est prévu pour cet après-midi. L'avis de la commission n'est qu'une recommandation, quelle que soit l'issue du vote. On s'attend à ce que la nomination de Mike Pompeo soit soumise au Sénat au grand complet plus tard cette semaine. Il a récemment fait parler de lui en effectuant une spectaculaire rencontre secrète avec le leader nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang. Toujours aux États-Unis, Travis Rankin, le tireur de 29 ans qui a tué 4 personnes hier avec un fusil semi-automatique dans un restaurant près de Nashville, a été arrêté. Le Secret Service, chargé de la protection du président américain, a indiqué que Rankin avait été arrêté le 7 juillet dernier après avoir franchi les barrières de sécurité extérieure de la Maison-Blanche à Washington. Le photojournaliste égyptien Mahmoud Abou Zeid, connu sous son pseudonyme Shaokan, détenu depuis 2013 dans son pays, est lauréat du prix mondial de la liberté de la presse UNESCO Guillermo Cano. Il avait été arrêté alors qu'il couvrait au Caire la sanglante dispersion d'un sit-in de partisans des frères musulmans par les forces de sécurité. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé son profond regret. Et puis sachez que l'ancien président américain Barack Obama prononcera le discours annuel de la Fondation Mandela en Afrique du Sud le 17 juillet, année du 100e anniversaire de la naissance du premier chef d'État noir sud-africain. À la mort du prix Nobel de la paix en 2013, Barack Obama avait confié que Nelson Mandela représentait l'une de ses grandes références morales. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Les transferts d'argent vers les pays pauvres ont atteint un niveau record en 2017, après deux années de baisse consécutive. Le montant total est de 466 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne a enregistré plus de 11%. Le Nigeria et l'Égypte viennent en tête avec respectivement 22 milliards et 20 milliards. Cet argent constitue une source cruciale de revenus pour les pays pauvres. D'après la Banque mondiale, ces transferts devraient s'accroître en 2018 pour atteindre 485 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne demeure la région où envoyer son argent est le plus coûteux. Le déficit commercial de l'Algérie s'est réduit de plus de 83% au premier trimestre 2018. Il représente 490 millions de dollars. En 2017, durant la même période, il avoisinait 3 milliards de dollars. La remontée des prix des hydrocarbures et la politique de maîtrise des importations expliquent cette réduction sensible du déficit de la balance commerciale. Les hydrocarbures représentent plus de 90% des exportations algériennes.
Et maintenant, un condensé de l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Constant Omari contre-attaque.
Et oui, dans un communiqué envoyé à VOA Afrique, le patron du foot congolais revient sur sa garde à vue et les allégations de corruption à son encontre. La vérité est têtue, insiste le président de la FECOFA. Dans ce court texte reçu par VOA, Constant Omari s'en prend à ceux qui ont voulu le déstabiliser. Il défend son honneur et réaffirme, encore une fois, l'homme moderne n'a jamais touché ni détourné le prétendu million de dollars parce que la fédération ne les a jamais reçus. C'est ce que déclare Constant Omari qui enfonce le clou et tacle les autorités congolaises, en particulier l'actuel ministre des Sports. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a jamais décaissé le moindre franc pour les matchs de la Tanzanie et du Nigeria que le ministre des Sports, Papi Nyong'o, explique au peuple qui avait perçu ce million de dollars. Pour en savoir plus sur cette affaire, Constant Omari, rendez-vous sur notre site voaafrique.com.
Les bouillants supporters d'Al Ahly suspendent leurs activités en Égypte.
Les ultras d'Al Ahly, groupe de supporters du plus célèbre club d'Égypte, mais considéré comme une organisation illégale par les autorités, eh bien ils annoncent la suspension sine die de leurs activités. Aucune précision n'a été apportée sur le motif de cette décision qui intervient un mois après des violences entre certains de leurs membres et la police à la suite d'un match au Caire entre Al Ahly et le club du CF Mounana dans le cadre des qualifications pour la Ligue des Champions.
Veillée d'armes à 24 heures de la première demi-finale de la Ligue des Champions.
Et deux équipes surprises à ce stade de la compétition qui s'affrontent mardi. Liverpool et l'AS Rome, un remake de la finale de 84 remportée par Liverpool à Rome. On rappelle que Liverpool n'est plus arrivé aussi loin dans la compétition depuis 2008. Les Reds ont éliminé Manchester City en quart de finale et sont la meilleure attaque de la compétition cette saison avec 33 buts. Il faudra se méfier au stade olympique de Rome de cette équipe de l'AS Roma qui a éliminé Barcelone au tour précédent.
Et NBA, suite des play-offs du championnat de basket nord-américain.
L'inusable Manu Ginobili a offert hier à San Antonio une victoire quasiment inespérée face à Golden State 103-90, tandis que LeBron James a sorti Cleveland d'un très mauvais pas à Indianapolis, victoire 104-100. Cleveland et Indiana sont désormais à égalité, deux victoires partout. Et le prochain match, le numéro 5, ce sera dans l'Ohio. Après avoir gagné les deux premiers matchs à domicile, Toronto a perdu à Washington 98-106. Même scénario pour les Celtics qui a concédé un deuxième revers de suite en déplacement 102-104 à Milwaukee.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous passons d'emblée à nos dossiers du jour dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous de la capitale américaine. Un grand merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Les évêques du Tchad expriment leurs inquiétudes face à la révision de la Constitution en cours devant l'Assemblée nationale. Pour l'Église catholique, ce processus envisagé par voie parlementaire, sans consulter le peuple, risque de fausser les règles du jeu démocratique, d'autant que le projet divise profondément les Tchadiens. Le gouvernement a qualifié les évêques du Tchad de menteurs, nous rapporte de N'Djamena le correspondant de VOA Afrique, André Kodmajingar.
Quand un chef religieux prononce un message au nom d'un groupe, il doit dire la vérité.
Mariam Mahamat Nour, ministre secrétaire général du gouvernement, traitant les évêques du Tchad de menteurs. Pour elle, le processus de réforme a été lancé depuis 2016 et que toutes les couches sociopolitiques, y compris les religieux, ont été consultées. Dans un ton peu conciliant, elle accuse vertement l'Église catholique du Tchad de faire une lecture erronée de la Constitution de 1996 en exigeant le référendum dans ce processus de révision constitutionnelle.
Nous exprimons notre stupéfaction et notre indignation face à cette déclaration infondée qui non seulement fait une lecture complètement erronée de la Constitution, mais jette les germes d'une grave division des Tchadiens. Le président de la République est le seul habilité à décider de la tenue d'un référendum.
Les évêques du Tchad sont dans leur rôle, estime le président du conseil exécutif des œuvres et missions de l'église évangélique Maranatha, l'évêque Dr Sitak Yumbatina Beni.
S'il y a quelque chose qui porte en elle-même les germes de division des Tchadiens de demain, c'est ce projet de constitution et surtout ceux qui sont derrière ce projet de constitution qui sont dangereux. Et c'est pour ça qu'en tant qu'évêque, en tant que pasteur, nous jouons notre rôle de sentinelle pour dire faites attention. Donc je ne pense pas vraiment que les évêques puissent faire une lecture erronée. Nous sommes stupéfaits de savoir que là où nous allons est très dangereux et je pense que le président de la République est en train de remettre en cause tout ce qu'il a pu construire depuis 1990 à travers cette constitution.
Pour le comité chargé des affaires d'urgence de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, vouloir modifier la constitution par voie parlementaire sans consulter le peuple est un coup d'État constitutionnel. Agar Mahamat Abdelkirim, l'un des membres du dit comité, invite les autres confessions religieuses à suivre l'exemple des évêques du Tchad.
Nous sommes en face d'un moment décisif de l'histoire de notre pays. Tous ceux qui ont gardé le silence seront considérés comme complices du gouvernement. Et la conférence épiscopale nous a prouvé qu'elle est avec le peuple et le Conseil supérieur des affaires islamiques et l'autre composante religieuse doivent également emboîter les pas.
Max Kemkoy, président national de l'Union démocratique pour le développement et le progrès, invite tous les Tchadiens à dire non à cette nouvelle constitution.
Il est temps que le peuple tchadien dans son ensemble se réveille pour dire non au terrorisme politicien d'Idriss Déby Itno, non à la monarchisation du Tchad, non à l'accaparement du pouvoir par une famille, non au régime présidentiel intégral.
Entre-temps, chacun va de son commentaire. Qui dit la vérité entre le régime au pouvoir et les évêques du Tchad s'interrogent certains internautes tchadiens qui parviennent à contourner la censure des réseaux sociaux imposée par le gouvernement tchadien depuis le 28 mars dernier. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, subit une pénurie d'eau sans précédent depuis le début du mois d'avril. La situation est qualifiée de catastrophique pour le 1,5 million d'habitants de cette métropole du centre du pays. La cause, le lac de barrage qui fournit 70% de l'eau de la ville est vide. La faute à la sécheresse inédite que traverse cette région, mais aussi aux carrières de sable, exploitées de manière anarchique, qui ont détourné une partie des eaux irriguant le barrage de la Loka, situé à 20 km de la ville. Reportage sur place de notre correspondant, Siriki Barreau.
plus une goutte d'eau ne s'écoule des robinets des populations de Boaké. Pour ceux qui ont encore la chance d'en avoir, elle est impropre à la consommation. Le barrage d'eau de la Loka, situé à l'ouest de la ville, a tari laissant place à un sol desséché et boueux par endroits. Kwadio Sanson en est le responsable. Il nous explique les facteurs qui ont conduit à une pareille situation.
Le phénomène qui pourrait expliquer cela, il y a le réchauffement climatique d'abord, et puis il y a la pluviométrie qui, depuis 2015, a vraiment baissé et nous avons ressenti ça profondément en 2016.
La nature est certes mise en cause, mais l'activité humaine a aussi contribué au dessèchement du barrage de la Loka. Un barrage qui dessert la ville de Boaké, mais également plusieurs localités environnantes, comme nous l'indique Kwadio Sanson.
On a constaté qu'il y avait aussi l'impact de l'homme, surtout au niveau des carrières de sable. Parce qu'il faut dire que dans la région, il y a beaucoup de carrières de sable et l'exploitation de ces carrières-là a causé un énorme préjudice au lac, parce que là où l'eau devait s'écouler de façon naturelle pour venir alimenter le barrage, on a constaté qu'il y avait des fossés qui avaient été créés par ces exploitants de carrières.
Des camions-citernes sillonnent la ville à l'effet de ravitailler en eau les populations. Malgré cela, la situation est de plus en plus intenable pour ces derniers. La quête d'eau à Boaké ressemble à une course au trésor. Dans presque tous les quartiers, le spectacle est le même. Femmes, jeunes et vieux, tous, bassines et bidons en main, à pied ou sur des tricycles, écument la ville à la recherche de points d'eau afin de s'approvisionner. Certains, comme cette jeune lycéenne, manquent parfois les cours parce que chercher l'eau est devenu la priorité.
Franchement, cette affaire d'eau-là, c'est agaçant. On souffre, on a cours, mais tu es obligé de te lever à 3 heures, aller chercher l'eau. Et puis l'eau de puits, souvent c'est sale.
La situation ne s'améliore pas, se plaint cette dame répondant au nom de Touré Aliment, qui, comme tous les autres, crie son ras-le-bol.
Sincèrement dit, on a besoin de l'eau, il n'y a pas l'eau. On souffre trop. Même y a l'eau à boire, il n'y en a pas.
Le gouvernement ivoirien, qui dès le début de ce manque a réagi avec l'envoi des citernes pour soulager les Boakois, continue de travailler afin de sortir de cette impasse. Les travaux pour la réalisation de plusieurs forages ont démarré le 17 avril dernier. À terme, l'État prévoit de relier le barrage de la Loka au fleuve Bandama, un fleuve qui prend sa source dans le nord du pays et qui traverse la Côte d'Ivoire du nord au sud avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Siri Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Nous restons en Côte d'Ivoire, rideau hier dimanche à Abidjan sur la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Amnou Mabo, le FEMUA. Organisé chaque année par le groupe musical Magic System, l'événement était placé cette année sous le signe de l'immigration clandestine. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, nous propose ce reportage.
Paris, une fois de plus réussi pour les organisateurs du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Amnou Mabo. Pendant les 6 jours qu'a duré le festival, les Abidjanais ont massivement répondu présent et la dizaine d'artistes nationaux et internationaux a assuré le spectacle. Le Congolais Lokua Kanza, heureux d'avoir pris part à ce FEMUA 2018.
Alors quand on a des artistes comme Maselfo qui, eux, pensent aux autres, louons-le, donnons-lui la force de continuer parce que dans quelques années, quand on sera plus là, les enfants qui vont être grands diront « Ah !» Magic System et Papa Salfo nous ont donné quelque chose.
La béninoise Zeynab était elle aussi sur la scène du FEMUA.
Cette initiative, vraiment, je ne cesserai jamais d'applaudir Gao Productions et d'encourager fortement à Salfo et ses collègues parce que ce qu'ils font, c'est fort. On les a vus, on sait d'où ils viennent. Et ce sont des gens qui sont en train de tendre la main à la nouvelle génération et même à l'ancienne. Ils donnent une vitrine importante.
C'était sans doute l'artiste le plus attendu à ce festival. Il est venu, il n'a pas déçu. Il a simplement mis du baume au cœur des mélomanes, le rappeur français Soprano.
On est super contents. On a vu des jeunes avec le sourire. Les papas chantaient Yoro, Inaya, les parents qui chantaient aussi. On est super contents et j'espère que le public a vraiment, vraiment kiffé.
Au centre de cette 11e édition du FEMUA, la question de l'immigration clandestine, un défi pour la Côte d'Ivoire et plusieurs pays du continent, le Kwa Kanza.
C'est tellement triste. Normalement, quand un humain voyage, qu'il soit blanc, jaune, rouge, c'est un moment d'aventure intense et immense. Sauf que nos enfants, quand ils voyagent, ça devient un voyage macabre. Il est grand temps que tous ensemble, on s'assied et se demandons que doit-on faire pour nos enfants.
Lokwa Kanza, Soprano, Sidiki Diabaté, Yemi Alade, Bila Kakura ou encore Luxon Pado sur la scène du FEMUA, le public n'en demandait pas tant.
Vraiment un grand plaisir de se retrouver ici. Hein, la 11e édition, vraiment, il n'y a pas quelque chose de plus mieux que ça, quoi.
Créé en 2008 par le groupe Magic System, le FEMUA est devenu au fil des ans un événement culturel majeur en Côte d'Ivoire. Un événement qui permet surtout à la jeunesse de Marcoury de voir chaque année sur scène et gratuitement des artistes de renommée mondiale. Une manière pour Magic System de manifester sa reconnaissance à ce quartier qu'il a vu naître. Rideau sur la 11e édition, rendez-vous en 2019 pour un autre FEMUA. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique. Notre sujet de cette semaine, êtes-vous conscient du danger des réseaux sociaux sur Internet? Exemple Facebook, WhatsApp, Snapchat et j'en passe. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731 ou contactez-moi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde est signée Josèle Morissin, à la console Zorniak Wojtek. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Au micro, c'était Jacques Aristide. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En vue de limiter les ressources qui attisent la guerre civile au Soudan du Sud, le département du commerce des États-Unis a imposé des exigences de licence à 15 entités pétrolières sud-soudanaises dont les revenus alimentent la crise en cours. Cela signifie que l'exportation, la réexportation et le transfert par ces entités de tout produit ou article américain sont désormais soumis à une licence d'exportation. Selon la Banque mondiale, le Soudan du Sud est l'un des pays le plus dépendants du pétrole, l'or noir représentant presque la totalité de ses exportations et environ 60% de son PIB. À travers leur action, les États-Unis espèrent accentuer la pression en vue de mettre un terme à 5 ans de guerre civile dans ce pays et la crise humanitaire qui en a résulté. En décembre 2013, en moins de 18 mois après avoir déclaré son indépendance, le Soudan du Sud s'est trouvé confronté à une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Ce conflit qui s'est transformé en une guerre civile a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. L'économie a été dévastée, avec en plus une prévalence des abus des droits humains, de la famine et de la malnutrition. Les violences ont fait près de 2 millions de déplacés internes et plus de 2 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Les 15 entités visées par les sanctions américaines incluent les ministères sud-soudanais du pétrole et des mines et la compagnie pétrolière d'État Nile Petroleum. Sont également visées Dar Petroleum Operating Company, la compagnie de distribution pétrolière Niak et Fils, Greater Pioneer Operating Company, Juba Petrotech Technical Services et Sud Petroleum Operating Company. Ces compagnies sont une source de revenus substantiels pour le gouvernement du Soudan du Sud, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert. Malheureusement, le gouvernement sud-soudanais et les responsables corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices qui sapent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud au lieu d'assurer le bien-être et fournir l'aide alimentaire d'urgence en faveur du peuple sud-soudanais. Le gouvernement du Soudan du Sud peut faire mieux, a dit Heather Nauertz. En tant que principal fournisseur d'aide au Soudan du Sud, les États-Unis sont fiers de défendre les valeurs humanitaires et de fournir une assistance vitale. Le gouvernement du Soudan du Sud ne doit pas gaspiller cette générosité, mais plutôt prendre des mesures concrètes pour satisfaire les énormes besoins du peuple sud-soudanais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue.